enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
J'aimerais partager avec vous l'histoire d'un homme qui était pharisien, c'est-à-dire religieux. Un religieux qui, contrairement à ses amis, était interpellé par ce que faisait Jésus. Il était troublé par ce qu'il voyait, par ce qu'il entendait aussi. Et un jour, contrairement à ses amis qui, eux, avaient des pensées négatives à l'encontre de Jésus, des pensées même de destruction à l'encontre de la personne de Jésus, lui est venu de nuit secrètement pour rendre une visite à Jésus. Et je vous propose d'ouvrir votre Bible avec moi dans l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 1er. Il est écrit là, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Cette rencontre de Nicodème, ce religieux avec Jésus, va bouleverser la vie de cet homme. Pendant le reste de l'histoire de Jésus, on n'en entendra pas parler, mais après la mort de Jésus, c'est l'un de ceux qui est venu avec Joseph d'Arimathée. Il est venu après la crucifixion pour récupérer le corps de Jésus et il a emmené avec lui des aromates pour embaumer le corps du Seigneur. Il savait, lui, il était persuadé que Jésus-Christ était vraiment venu de Dieu et qu'il était le Fils de Dieu. Cette rencontre a bouleversé cet homme, l'a transformé, l'a métamorphosé. Une nouvelle naissance, c'est une transformation, une métamorphose. Je voudrais prendre avec vous un parallèle dans la nature en analysant ensemble la libellule. Je voudrais juste lire un texte qui se trouve dans le livre de Job, au chapitre 12, verset 7, un texte que j'aime beaucoup, où la Bible nous interpelle et nous demande de faire quelque chose. Job 12, verset 7, il est écrit « Interroge les bêtes et elles t'instruiront, les oiseaux du ciel et ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira et les poissons de la mer te le raconteront. » Je crois en réalité qu'en observant la nature, qu'en cherchant, en fouillant dans les choses de la nature, nous apprenons beaucoup de choses par rapport à nous-mêmes en tant qu'êtres humains, mais surtout par rapport à notre Créateur, ce Dieu Tout-Puissant, extraordinairement bon, extraordinairement grand. Pourquoi la libellule ? Parce que sa transformation est une image, une belle image de ce qui se passe dans le processus de la repentance et de la conversion, c'est-à-dire du changement d'un homme. La métamorphose est un changement extérieur. Et j'ai pris la définition du Larousse qui disait que la métamorphose, c'est un changement complet dans l'apparence, dans l'état et dans la nature d'une personne. Un changement d'origine surnaturelle qui rend un être méconnaissable. Mais la repentance est un changement intérieur qui vient de l'intérieur de nous-mêmes. Repentance en grec veut dire métanoïa, qui veut dire changement de mentalité, changement d'intention, changement intérieur. C'est la tristesse qu'on éprouve, par exemple, de ses péchés et de la douleur d'avoir offensé Dieu par nos mauvaises actions et par notre façon de vivre. Les blessures qu'on a pu infliger à quelqu'un. La repentance, c'est également le premier message de l'Évangile. Repentez-vous et croyez, nous dit la Bible. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 4, verset 17, il nous est donné ce détail extraordinaire. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Lorsque le Saint-Esprit a touché le Seigneur. Il a commencé, après son baptême, à prêcher. Les premiers mots qu'il a dit, c'est « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Tout comme Jean-Baptiste appelait à la repentance, Jésus lui aussi a commencé par nous demander de nous repentir de nos fautes, de nos péchés. Nous trouvons 43 appels à leur repentance dans la parole de Dieu. Avant de devenir un bel insecte, la libellule a commencé par être une larve sortie d'un œuf. Une nouvelle naissance fera d'elle une créature extraordinaire. Elle aura une nouvelle forme, elle aura une nouvelle couleur, une nouvelle taille. Elle évoluera aussi dans un monde nouveau et elle aura des habitudes nouvelles. En fait, la libellule va être complètement transformée par rapport à son départ. C'est exactement ce que Dieu veut faire avec l'homme. L'homme qui a le privilège de rencontrer Jésus-Christ. Il lui offre une nouveauté de vie. J'ai pu, par la grâce de Dieu, expérimenter cela moi-même. Et je suis tellement heureux d'avoir expérimenté cette nouveauté de vie que j'ai envie de tout mon cœur de la partager avec quiconque veut l'entendre, veut l'écouter. L'homme pécheur doit subir une transformation. Débarrassé de son péché, il peut être seulement à partir de ce moment-là en communion avec Dieu. Voyons ensemble l'état de la larve, l'état larvaire de la libellule. C'est vraiment l'état de l'homme sans Jésus-Christ. Cette larve vit dans trois éléments essentiels. Le premier, c'est l'eau. C'est un élément que l'on peut toucher, qui est porteur et limité. On a là l'image des choses visuelles, matérielles que nous avons autour de nous, en tant qu'être humain, en tant qu'homme. C'est le visuel, tout ce que l'on peut voir, tout ce que l'on peut toucher, ce que l'on peut acheter, ce dont on peut profiter. Le deuxième élément, c'est les ténèbres. La larve de la libellule vit dans les ténèbres, elle vit dans l'obscurité totale. Elle se cache le jour, elle s'enfonce dans la boue le jour et elle sort dans l'eau, en surface, la nuit. C'est un parallèle avec le comportement de ceux qui préfèrent les ténèbres à la lumière. Jean chapitre 3, verset 19, la parole de Dieu nous dit « La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Avant de rencontrer Jésus-Christ, mes œuvres étaient mauvaises. J'étais un homme perdu. Non pas que je sois parfait aujourd'hui, mais par la grâce de Dieu, en faisant le bilan de ma vie, je constate que je progresse avec le Seigneur. Je vais de progrès en progrès. Et c'est un encouragement pour moi, parce que c'est un appel que Paul nous fait dans la parole de Dieu, marcher de progrès en progrès. Et quand je fais le bilan de ma vie, je me rends compte combien le Seigneur a travaillé dans mon existence et combien il travaille encore. Pourquoi ? Parce qu'il veut nous attirer à son admirable lumière. Le troisième élément, c'est la vase. Les larves vivent dans la boue des bas-fonds et elles ne sont munies d'aucun moyen pour se nettoyer, pour se débarrasser de cette boue, de cette vase qui est sur les larves. C'est l'image du péché qui nous colle à la peau, qui nous enveloppe. L'image aussi du refus d'accepter sa propre responsabilité. On pense que c'est toujours la faute des autres. Si on n'est pas heureux, s'il nous manque des choses, de toute façon, le cœur de l'homme sans Jésus-Christ n'est jamais satisfait et ne le sera jamais. Je lisais l'autre jour l'histoire d'un homme qui était mourant. Et sur son lit de mort, sa femme était près de lui. Et puis lui disait à sa femme, « Tu es restée, chérie, à mes côtés au travers de toutes les circonstances de ma vie. Quand j'ai perdu mon emploi, tu étais là. Quand plus tard j'ai ouvert une société et que j'ai fait faillite, tu étais encore là. Quand je suis tombé malade, tu étais là, à mes côtés. Chérie, après un long moment de silence et de réflexion, regardant sa femme, lui dit, chérie, je crois et je pense que tu me portes malheur. C'est une histoire, ça peut faire sourire. Mais souvent, on refuse nos responsabilités. On porte toujours les responsabilités des choses sur les autres. C'est pas de ma faute. C'est pas moi, c'est lui ou c'est elle. Parce que c'est pas naturel, c'est pas dans le cœur de l'homme d'accepter sa propre responsabilité. tant que le péché nous colle à la peau. Pour devenir libellules, les larves doivent quitter leur élément naturel. Elles doivent quitter cette boue, elles doivent quitter l'obscurité et sortir de l'eau dans laquelle elles sont. Voyons ensemble maintenant le processus de la transformation. La première chose, c'est que la larve doit venir à la lumière. La larve va venir au bord de l'étang dans lequel elle est tombée un jour et elle va sortir du fond de l'eau avec sa vase, comme elle est. Elle s'expose alors pour la première fois à la lumière. Pour l'homme, c'est pareil. Il faut qu'il vienne à la lumière de la parole de Dieu. Il faut qu'il s'approche du Seigneur Jésus. Il faut qu'il s'approche de Dieu tel qu'il est. Je rappelle que la larve n'avait pas le moyen de se nettoyer. Et tel que nous sommes, avec nos péchés, avec nos fautes, avec nos manquements, nous devons venir près du Seigneur. Nous devons nous approcher de lui. Beaucoup de gens me disent, vous savez, pasteur, j'aimerais bien venir à l'église, mais je fais trop de bêtises. Je ne suis pas parfait. Dit mon ami, si tu attends que tu es parfait, tu ne viendras jamais dans l'église. Tel que tu es, Dieu t'attend. Tel que tu es, Jésus t'aime parce qu'il te connaît. Il connaît le cœur de l'homme. Il sait de quoi l'homme est formé. Il connaît ses pensées, il connaît ses secrets, il connaît toutes choses. Il sait que nous ne sommes pas parfaits. Mais il nous aime et il nous invite à venir dans la lumière tel que nous sommes. La deuxième chose qui va permettre le processus de transformation, c'est que pour la première fois, la larve va respirer de l'air. Au moment où la larve entre en contact de l'air, elle a alors à ce moment-là la force de sortir de l'eau. Nous avons là, contrairement à l'eau, l'image du monde invisible. L'air que nous respirons, nous ne le voyons pas. Nous touchons maintenant au surnaturel. Nous touchons au spirituel, à la foi. Je discutais hier avec une jeune femme qui me disait « Mais l'ami que je connais ne peut pas croire que Dieu existe. Il ne peut pas accepter qu'il y a un Dieu dans le ciel. Comment lui faire comprendre ?» Il dit « Tant que je ne peux pas voir Dieu, je ne peux pas le croire. » Alors je lui ai dit « Mais l'air qu'il respire, il est bien là, il ne la voit pas. » Il nous faut cette notion de foi. Il nous faut la foi pour accepter le Seigneur. Et seul le fait de nous tourner vers cette lumière peut engager ce processus de foi dans notre vie. La troisième chose, c'est que la larve va enfin s'exposer au soleil. Le soleil ne va pas chercher la larve, c'est elle qui doit le chercher. La parole de Dieu nous encourage à chercher. Cherchez et vous trouverez. Nous avons besoin de faire un effort. Nous avons besoin de faire les choses dans notre vie. La bénédiction de Dieu ne vient pas comme ça, il nous faut la chercher. L'autre jour, lorsque j'étais en Algérie avec mon frère, on avait fait une réunion à 130 km de Tizi Ouzou, à Béjaïa. Et en rentrant sur la route, le pasteur Salah me faisait remarquer un cimetière sur le côté, un joli petit cimetière. Il me dit, tu vois, ça, je lui dis, c'est quoi ce cimetière? Il me dit, ça c'est un cimetière anglais. Il dit, je vais te raconter l'histoire de ce cimetière. Ce sont des gens qui sont enterrés là depuis très longtemps et ce cimetière a été complètement abandonné. Mais un jour, un homme, un chômeur de 35 ans, je crois, un homme qui n'avait pas de travail, en se baladant un jour dans ce cimetière, voyant la désolation de ce cimetière, est rentré chez lui, a cherché des outils et a commencé à désherber, à nettoyer ce cimetière. Puis il a fait ça pendant des jours et des semaines. Et puis, il a recommencé. Chaque fois qu'il fallait, il recommençait à entretenir ce cimetière. Il ne connaissait personne. C'était tous des étrangers, les gens qui étaient enterrés là. Il n'avait jamais vu personne. Et ça, ça a duré pendant des mois, des années. Personne ne lui avait rien demandé. Il faisait ça de son propre gré. Et un jour, quelqu'un d'Angleterre est venu sur les lieux visiter le cimetière. Il était très surpris parce que cette personne était venue là déjà 10 ans auparavant voir un de ses aïeux enterré là. Et avait vu le cimetière dans un délabrement complet et a commencé à se renseigner. Mais comment ça se fait que ce cimetière est entretenu? Qui c'est qui l'entretient, etc. Et puis on a raconté l'histoire de cet homme. Ces gens sont allés visiter cet homme, l'ont remercié pour le travail qu'il faisait et sont rentrés en Angleterre. Et ont discuté avec des membres de la famille, des gens qui étaient enterrés là. À partir de ce jour, cet homme a reçu régulièrement un salaire, et un très bon salaire, de la part d'Anglais qui s'étaient réunis pour lui payer son travail, qu'il avait fait comme ça, de bonne conscience. Et le pasteur Salah me disait, tu vois, cet homme aujourd'hui, il a une voiture, il a une maison, il est riche, il n'a rien demandé à personne, il a fait cela de son cœur, et aujourd'hui, tous les Algériens qui sont au chômage cherchent un cimetière anglais. Je lui ai dit, Salah, ton histoire est vraiment intéressante. Il voulait me faire rire au travers de ça, il a réussi à nous faire rire. Mais je lui ai dit, Salah, tu vois, moi, ce que je retiens dans ton histoire, c'est que cet homme n'a pas attendu que les choses lui viennent comme ça du ciel. C'est qu'il a cherché à faire quelque chose, gratuitement, à faire du bien, à entretenir. Souvent, on est comme ça, on se dit, on est tout le temps, et on a le chic, on est des... En France, de plus en plus, j'ai l'impression, quand je rentre de voyage comme ça, j'ai l'impression que de plus en plus, on est des assistés, des râleurs nés. Pardonnez-moi, mais c'est l'impression que j'ai quand je rentre. On râle pour tout, on a l'impression qu'on nous doit tout. Mais c'est terrible, cette mentalité. Alors que le Seigneur nous demande de donner. Nous, on attend qu'une chose, c'est recevoir. Et quand on ne reçoit pas, on râle. On n'est pas content. L'histoire de cet homme, je ne l'oublierai jamais. C'est un exemple pour moi. Tôt ou tard, quand on a une attitude de cœur pareille, Dieu nous récompense, d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est sa manière d'agir. Dieu regarde au cœur et il voit le cœur droit, le cœur juste. Cet homme n'a rien demandé à personne. Sous l'effet du soleil, qu'elle a été cherchée. Elle a dû faire un effort pour chercher le soleil, cette larve. Sous l'effet du soleil, la peau se déchire sur le thorax au niveau précis où passent les vaisseaux sanguins qui servent en fait de cœur à la libellule. C'est extraordinaire, parce que Dieu commence toujours son œuvre dans le cœur de l'homme. Le cœur se convertit et se donne au Seigneur. Puis, la fente va s'agrandir, et tout doucement, elle va monter vers la tête, et elle va découvrir les yeux. Quand le cœur a été touché, l'intelligence et les yeux s'ouvrent aux réalités spirituelles. Parce qu'avant, ce n'est pas possible de les comprendre. Dieu nous donne une nouvelle vision des choses, une nouvelle compréhension des choses, une compréhension aussi du monde dans lequel on vit. Les valeurs qu'on avait jusqu'à présent tombent, elles ne sont plus les mêmes, elles sont changées. Parce que Dieu a touché d'abord notre cœur, ensuite notre intelligence est touchée, nos yeux, notre façon de voir les choses changent également. La bouche va se dégager tout de suite après les yeux. Quand notre bouche se dégage, quand Dieu nettoie notre bouche de toutes les mauvaises choses que l'on disait, tous les jurons, toutes les paroles mauvaises, tous les mensonges, etc., alors il y a de la place pour la louange à notre Dieu. Il y a de la place pour prier notre Seigneur. Il y a de la place pour célébrer son nom, pour aussi être des encouragements les uns pour les autres, pour être des hommes et des femmes capables de relever par de bonnes paroles douces, encourageante. Puis enfin, c'est les pattes qui vont sortir. Ces pattes vont servir à la libellule à se cramponner lorsque le vent va souffler fort. Là aussi, le chrétien qui a rencontré Jésus-Christ et qui s'affermit par la foi dans la parole de Dieu, pourra aller d'un pas assuré. Il pourra rester attaché au rocher qu'est Jésus-Christ. Et enfin, ce sont les ailes qui se dégagent. La foi, là, entre en action et elle nous permet de faire des expériences. Grâce à cette foi qui va grandir de plus en plus, nous allons expérimenter la véracité de la parole de Dieu, expérimenter ce que Jésus fait dans les vies, expérimenter les promesses que Jésus nous donne, expérimenter la véracité de ses promesses et voir que ce que Dieu dit est véritable et nous sentir légers par la présence de notre Dieu, tout comme notre frère Charles s'est senti léger l'autre jour en Serbie. Il nous disait, mais j'ai l'impression que je vais m'envoler, je ne pèse plus rien. Il a expérimenté la présence de Dieu en même temps que cette femme qu'on était en train de baptiser. Le corps entier est libre maintenant. La vieille enveloppe est abandonnée. Ce qui restait de la larve, elle reste là, abandonnée au sol. À l'image de la libellule, abandonnons définitivement notre vieille vie. Notre vieille nature, ce qui faisait de nous quelqu'un de peut-être parfois désagréable, quelqu'un de triste, quelqu'un de malheureux, quelqu'un n'ayant aucun but. n'ayant pas d'espérance, laissons cela de côté. Christ est notre espérance. Il est notre force. Il est notre soutien. Voyons ensemble maintenant la vie nouvelle et ses conséquences. On terminera par cela. Premièrement, la libellule est féconde. Dès qu'elle est libellule, elle est remplie d'œufs. Tout au long de sa vie, elle va semer des œufs partout. Elle est féconde. Notre libellule va semer des larves partout où elle va passer. Il en est de même pour l'homme transformé. Il est fécond. Relisons ensemble ce texte très connu de Marc 16, verset 15, qui est sur mon cœur depuis plusieurs semaines, qui est là comme un fardeau. Marc 16, verset 15, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Dieu nous envoie prêcher la bonne nouvelle, semer cet évangile partout où nous avons l'occasion de le faire. Partout, dans le monde entier, nous dit la parole de Dieu. Partout, chez nous, chez nos voisins, nos amis, les membres de notre famille, partout, nous avons ce privilège extraordinaire d'être féconds et de poser des œufs. Peut-être on ne verra pas tout de suite le résultat, peut-être on ne le verra même jamais, mais croyons que Dieu, on verra nous jamais de nos yeux, mais ce qui a été semé, Dieu le fait croître, Dieu le fait grandir. Dieu n'a pas dit « si vous voulez, allez ». Jésus n'a pas dit cela. « Allez prêcher l'évangile à tout le monde, si vous le voulez bien, s'il vous plaît. » Non, c'est un ordre qu'il a donné. C'est un commandement qu'il a donné. Nous devons utiliser tous les moyens que Dieu met à notre disposition pour apporter cette bonne nouvelle de l'évangile. Et nous étions très heureux la semaine dernière lorsque, avec l'équipe qui est partie en Serbie, nous avons pu apporter ce matériel. D'abord dans cette école, où nous avons vu cette école dans un délabrement terrible, la joie aussi de ces gens. Et puis, vous savez ce qui est extraordinaire, quand les gens sentent qu'on apporte les choses et qu'on n'attend rien en retour, alors ils sont remplis de questions. Mais pourquoi vous faites cela? Pourquoi? Quel est votre but? Mais qu'est-ce qu'il y a derrière votre action? On veut comprendre, on ne comprend pas. Alors nous avons des occasions formidables de témoigner. Nous avons des occasions extraordinaires d'apporter l'évangile. Nous faisons cela parce que nous vous aimons, parce que la parole de Dieu nous demande d'aimer notre prochain. Et alors on peut apporter le message de l'évangile. Dans cet hôpital, j'oublierai jamais le visage de cette gynécologue. Il y avait deux gynécologues dans le service, mais cette femme était ahurie par le matériel qui était emporté. Son visage était devenu rayonnant. Et elle aussi, ne comprenant pas pourquoi nous emmenions cela comme ça et que nous n'attendions rien en retour, elle a demandé pourquoi et dans la foulée, elle a accepté avec joie la Bible qu'on lui a donnée. Quelques minutes après, on lui a piqué sa Bible. Mais ça, c'est super. Pourvu qu'on en pique encore beaucoup des Bibles. On lui en a donné 5. Et les gens qui ont volé la Bible étaient dans un coin et lisaient la Bible en serbe. Ça, c'est réjouissant de voir cela. Utilisons tous les moyens que Dieu nous donne. Oui, il ne nous suffit pas de prêcher seulement l'évangile en paroles, en mots. Prêchons l'évangile en actes également, avec nos mains, avec notre cœur, avec notre porte-monnaie. Avec tout notre être, nous devons prêcher l'évangile. Trop souvent, on se limite à des paroles. Et quand il s'agit de passer aux actes, c'est une autre affaire. Donc elle est féconde, notre libellule. Deuxièmement, elle est libre. La conception de cet insecte est extraordinaire. Elle est parfaite. Elle est capable de voler dans tous les sens, vers le haut, vers le bas, sur le côté, à gauche, à droite, dans tous les sens. Et elle est tellement parfaite que les hommes se sont inspirés de la libellule pour inventer l'hélicoptère. Je me trompe ou c'est juste? Toi qui es un spécialiste des hélicos. Extraordinaire. Dieu nous appelle à vivre dans une totale liberté. Libre de tout esclavage qui nous rend malheureux. Tout esclavage qui nous rend malheureux et qui vole les bénédictions que Dieu a préparées pour chacun d'entre nous. Il veut nous rendre libres du vice, du mensonge, de la malhonnêteté, de tout ce qu'on peut imaginer. Il veut vraiment faire de nous des hommes libres, réellement libres. Il n'y a qu'en Jésus-Christ que nous pouvons être des hommes réellement libres. À noter que la libellule peut voler toute une journée sans se poser. Ça aussi, c'est extraordinaire. Toute une journée sans se reposer. De même, dans notre vie de racheté, Dieu nous renouvelle dans la marche. Dieu nous donne des forces surnaturelles. Quand il faut, il nous donne des forces surnaturelles. Quand il a besoin de nous, il sait nous tenir éveillés. Il sait nous renouveler dans la marche. J'aime ce texte d'Ésaïe 40, verset 28. Je vais le lire pour vous. Ésaïe 40, verset 28. Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Dans le service du Seigneur, mes amis, il y a de la joie, parce que l'Éternel nous soutient, il est notre force. Et même si on tombe, il nous relève, il est près de nous, il nous soutient dans la lutte. En conclusion, je dirais simplement, eh bien, retenons l'illustration de cet insecte et passez de la mort à la vie pour ceux qui ne l'ont pas encore expérimenté, ceux qui n'ont pas encore choisi Jésus dans leur cœur, ceux qui sont peut-être là pour la première fois, ça vaut la peine de passer des ténèbres à la lumière, de sortir de notre état larvaire pour nous approcher de la lumière de Dieu et devenir une nouvelle créature. Vivre cette métamorphose avec Dieu, il s'agit d'un choix. Dieu est un gentleman, il ne forcera jamais personne. Dieu est un Dieu de liberté. Il frappe à la porte de notre cœur, mais c'est à nous de lui ouvrir ou de le laisser dehors. C'est lui qui veut notre bien, mais c'est nous qui disposons de notre cœur et de notre réponse. Alors, le processus de la métamorphose et de la repentance peut commencer dans votre vie. Il n'y a qu'une chose à faire, s'approcher de lui et lui dire « Seigneur, j'aimerais te connaître, je voudrais te rencontrer, je voudrais que tu deviennes mon sauveur personnel. » Parce que la Bible me dit qu'il est la lumière du monde. Vous pourrez lire ça dans l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 5. Et pour ceux qui ont déjà expérimenté, eh bien, la bonne nouvelle, la nouvelle naissance, réjouissons-nous de la perfection dans laquelle Dieu veut nous emmener. Je disais tout à l'heure que Dieu nous amène à marcher de progrès en progrès. Puissions-nous ressembler à Jésus ? On chante parfois ce chant, « Te ressembler Jésus, c'est mon désir suprême. » Je lisais l'histoire d'un missionnaire qui travaillait en Birmanie. Il avait l'habitude, une fois par semaine, d'aller au marché. Il installait une petite table et il distribuait des évangiles de Jean, des évangiles de Marc. Et des Bibles aussi. Mais aussi, il s'asseyait derrière sa table et il choisissait un texte. Et puis, il le récitait à haute voix aux gens qui passaient. Il avait appris la langue birmane. Et il racontait des histoires. Et ce jour-là, il parlait de la personne de Jésus sur la place du marché. Et puis, il y a un vieil homme pendant sa lecture qui l'interpelle. Il dit, écoute-toi là. Il s'appelait David, ce missionnaire. Il lui dit, moi, je connais l'homme dont tu parles. Il dit, ah oui, vous le connaissez ? Vous l'avez accepté dans votre vie ? Il dit, non, non, il habite dans mon village. Le missionnaire était quelque peu troublé. Il lui a posé quelques questions. Il dit, oui, c'est l'histoire de mon ami. C'est l'histoire de quelqu'un qui habite dans mon village. Viens voir avec moi. Le missionnaire a accepté de le suivre. Et il est parti avec lui dans son village, à quelques heures de marche. Et quand il est arrivé dans ce village, il a vu une maison qui n'était pas comme les autres, une maison qui était propre. Il n'y avait pas d'ordures autour de cette maison comme on avait l'habitude de voir ailleurs. Il y avait, là où d'habitude il y avait de la boue piétinée, il y avait des belles plantes, des belles fleurs. Et puis ils ont frappé à la porte et cet homme est sorti. Et c'était un homme rayonnant. Il dit, tu vois, c'est lui dont tu parlais tout à l'heure dans ton histoire. Alors les deux hommes ont commencé à converser ensemble. Et il lui a dit, ben voilà, moi je suis missionnaire et on m'a dit que eh bien, vous ressembliez à Jésus. Alors cet homme s'est mis à sourire et dit, maintenant, je suis un homme comme toi. Il est rentré dans une pièce et il est revenu avec un vieil évangile de Marc en miettes. Il était complètement usé. Et cet homme racontera, il y a des années, un homme sur le marché m'a donné cet évangile de Marc, et je l'ai lu, relu, et j'ai été interpellé. Et aujourd'hui, je connais Jésus-Christ. Et c'est vrai que le désir de mon cœur, c'est de lui ressembler. La question que je me suis posée, À moi, personnellement, c'est Christian. Est-ce que tu ressembles un peu à Jésus? Juste un peu. C'est mon désir. C'est vrai que je ne suis pas parfait. C'est vrai que je ressemble peut-être pas encore à Jésus. Mais il m'invite. Il m'invite à le faire. Ce vieillard, sur la place du marché, lorsque ce missionnaire lisait ce texte sur Jésus, a été touché. Et il a dit, mais moi je connais cet homme, il habite dans mon village. Vous vous rendez compte un peu de la force, la puissance du témoignage de ce villageois? C'est extraordinaire. Est-ce que nous lui ressemblons un peu? Dieu nous invite. Je crois réellement que nous sommes en pleine métamorphose, comme la libellule. Je crois que le Seigneur a encore plein de transformations à faire dans notre vie, dans notre corps. Je sais qu'il est en train de nous modifier, de nous modeler. Je sais que parfois ça fait mal. Parfois ça coûte, parfois il faut marcher sur son petit moi, sur beaucoup de choses dans notre vie. Mais c'est pour que nous puissions de plus en plus lui ressembler. C'est pour que nous puissions, comme Nicodème, être persuadés, oui, un jour je serai avec Jésus. Oui, il a préparé une place pour moi dans le ciel, et c'est ce qui compte pour moi. En attendant que je suis sur la terre, ici-bas, j'ai un devoir, Seigneur, te ressembler.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.